Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. C'est bientôt l'heure de vérité pour Apple Intelligence. Les premières fonctions seront disponibles la semaine prochaine avec iOS 18.1 et de nouvelles vont suivre peu de temps après. Tim Cook mise beaucoup sur ses technologies d'IA générative pour vendre plus d'appareils. Mais n'est-ce pas un pari un peu trop osé ? On va en discuter avec Christophe. Dans le reste de l'actualité, Mac Génération fête ses 25 ans, et oui, on va parler un peu de nous. Qualcomm revient dans la course face à Apple, et ça ne va décidément pas fort pour le Vision Pro. Nous sommes le samedi 26 octobre, c'est parti pour le débrief des infos principales de la semaine. Une fois n'est pas coutume, on va commencer l'émission avec un petit peu d'autopromo. On l'avait évoqué en coup de vent lors d'un épisode précédent. Mac Génération fête cette année son 25e anniversaire. Et oui, 25 ans, rendez-vous compte. Bah, ça en fait tout simplement l'un des plus anciens sites tech en France. Et pour cette occasion, on prépare quelque chose de très spécial. Salut Christophe, ça va ?
Salut Stéphane, oui ça va, en plus la semaine prochaine promet d'être particulièrement chargée en annonces d'après ce que l'on a pu comprendre avec enfin de nouveaux Mac au programme, donc oui ça va, on va vivre des jours passionnants. Mais avant de parler des 25 ans de Mac G, alors cet iPad mini, qu'en est-il exactement ?
Ah c'est vrai que je teste l'iPad mini depuis mercredi. Alors les nouveautés, faut les chercher quand même un petit peu, hein, ça rend pas forcément en compte quand on met l'iPad mini 6 et l'iPad mini 7 l'un côté de l'autre, bah c'est le même design, tout ça c'est forcément la même chose, mais bon c'est vrai que du point de vue de la puissance, le nouvel iPad mini apporte vraiment un gros gain de performance, ce qui est pas mal. Voilà, j'en parlerai plus dans le test à venir la semaine prochaine.
On attend ça avec impatience alors.
Oui. Mais dis-moi, qu'est-ce qui est prévu pour les 25 ans de Mac G ? Je crois avoir vu quelque chose d'assez spécial.
Oui, c'est un projet qui voit en fin de jour et qui nous a beaucoup occupé ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Donc voilà, pour marquer le coup, voilà, et pour se dire qu'on a pris quand même un petit coup de vieux, on a décidé donc de réaliser un magazine qui raconte l'histoire de Mac Génération pendant ses 25 ans et en parallèle un petit peu l'histoire d'Apple. Donc voilà, c'est un gros chantier. On vous remercie beaucoup parce que le projet est un succès. On a déjà atteint notre objectif. Donc le magazine verra bel et bien le jour d'ici quelques semaines. Donc voilà, je ne peux que vous encourager, si vous n'avez pas déjà fait, à aller sur Ulule. On mettra l'URL dans le descriptif de podcast et voilà, à participer à cette formidable aventure. D'ailleurs, ça me fait sourire. Il y a un lecteur qui m'a dit « Oh, 25 ans, c'est formidable. J'ai acheté le magazine, vivement celui des 50. On verra !» Il y a un dernier point aussi, parce qu'on a eu quelques questions par rapport à ça. La journée de Mac Génération, la soirée, on ne sait pas trop. On ne l'a pas oublié. L'idée à la base, c'était de mener les deux de front. Et puis, bah, plus on avançait dans ces deux projets, plus on s'est dit qu'on allait... On ne voulait pas fêter les 25 ans de Mac G avec un burn-out. Et on cherche aussi à faire quelque chose de sympa à cette occasion. Donc, la journée de Mac G, elle aura bien lieu, mais attendez un petit peu, ce sera plutôt en 2025.
Ouais, merci en tout cas beaucoup pour la campagne de financement participatif sur Ulule. On a déjà atteint 100%, tu l'as dit, mais voilà. Plus on a de participation, le mieux c'est pour le magazine et pour la suite. Ouais. On va parler d'Apple maintenant. Alors, le gros sujet de la semaine, c'est Apple Intelligence. Les premières fonctionnalités seront disponibles officiellement lundi prochain avec iOS 18.1. Il y aura des outils pour le texte, la gomme magique dans Photo et les résumés de notifications notamment. Alors, à chaque fois qu'on parle d'Apple Intelligence, il faut rappeler quand même une chose, c'est que ça ne sera pas disponible sur iPhone en Europe avant l'année prochaine, même s'il y a une méthode pour contourner cette restriction. Alors, il faut se connecter à l'App Store avec un compte hors Union européenne et mettre son iPhone en anglais. Du moins, ça marche pour le moment. Cette semaine, on a aussi découvert de nouvelles fonctionnalités d'IA. Avec la première bêta d'iOS 18.2, on a pu essayer l'intégration de ChatGPT et Visual Intelligence. Alors, vous pouvez découvrir ça sur e-Génération, on a publié des articles sur le sujet. Et puis, la machine marketing s'est mise en marche. Tim Cook a notamment fait la une du Wall Street Journal Magazine. Il jure qu'Apple Intelligence a changé sa vie. On comprend qu'Apple mise beaucoup sur ces nouvelles fonctionnalités pour vendre plein d'appareils, mais est-ce que ça peut vraiment marcher, ça ?
Ah, mais il a tout à fait raison. Moi, je crois que ça peut avoir un impact significatif sur les ventes, mais à terme. À court terme, c'est beaucoup moins sûr. Le problème d'Apple Intelligence, c'est son lancement, qui est quand même très morcelé. Je ne suis pas certain que les premières intégrations dans iOS 18.1 changent la face du monde. Les nouveautés que l'on a pu voir dans la prochaine bêta dans iOS 18.2 sont déjà un peu plus excitantes. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre problème, c'est la disponibilité de ces technologies. Elles arrivent en ordre dispersé, ne sont disponibles qu'en anglais et qu'aux États-Unis dans un premier temps. Donc ça fait quand même beaucoup de si. Je pense que pour Apple, on verra, elle pourra éventuellement récolter les fruits de son travail concernant Apple Intelligence à la rentrée de l'année prochaine. Je pense que les freins qu'on évoquait seront en grande partie levés, et puis il y aura les nouveaux iPhones. Donc, ce sera peut-être l'occasion ce sera peut-être vraiment le vrai rendez-vous avec le grand public pour Apple Intelligence. Et puis, avant là, il y a quand même la WWDC que j'attends avec impatience parce que jusqu'à présent, Apple n'a fait que combler son retard en matière d'IA générative. J'espère que lors de la prochaine conférence des développeurs, on verra des usages un peu plus innovants justement de l'IA générative. Donc voilà la situation où elle en est à l'heure actuelle. Mais il y a quelque chose d'important à noter, c'est qu'Apple est dans la position du chasseur. Et c'est dans cette position que Cupertino est finalement le plus à l'aise. Elle a certes un retard technologique qui est potentiellement important. Gurman disait en interne que les technologies d'Apple avaient 2 ans de retard sur la concurrence, ce qui est énorme. Mais elle peut compenser en partie ce retard par la vitesse à laquelle elle peut intégrer et diffuser ses technologies dans ses produits. Ça, c'est son gros point fort. Quoi qu'il arrive, les choses vont actuellement très très vite dans l'intelligence artificielle. Et il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas une course, ce n'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Et voilà, ça ne fait que commencer.
Oui, parce que c'est vrai qu'Apple Intelligence est beaucoup mis en avant pour les iPhone 16, mais d'après les premières estimations, en fait, les iPhone 16 ne feraient pas un carton phénoménal. Il y a des retours qui disent que il y aura peut-être Apple aurait peut-être même coupé un peu les prévisions de vente de production. Alors on aura les premiers chiffres la semaine prochaine avec les résultats financiers d'Apple jeudi soir. Ouais.
C'est certain que de ce point de vue-là, Apple a, en tout cas à court terme, un véritable problème. Bon, on en parlera un peu plus tard, mais bon, le Vision Pro, enfin, on n'attendait pas grand-chose de ce point de vue-là, mais ça va pas être à court terme un relais de croissance pour Apple. Les ventes d'iPhone n'ont pas l'air d'être au beau fixe. Enfin, elles se maintiennent, et elles se maintiennent quand même à des niveaux incroyablement élevés.
Oui.
Faut aussi dire les choses, hein. Les ventes d'iPad, a priori, après un premier boom lors de la présentation de la nouvelle gamme Pro, le soufflet est vite retombé. Voilà, il reste les Mac. Donc voilà, mais il n'y a pas, on va dire, à part peut-être les services, il n'y a pas un moteur qui est susceptible d'apporter beaucoup de croissance à court terme pour Apple.
On va parler un peu de la concurrence maintenant. Alors, distancé depuis des années par Apple, Qualcomm rattrape finalement son retard. Qualcomm a dévoilé cette semaine le Snapdragon 8 Elite, qui est présenté comme le système sur puce mobile le plus puissant jamais créé. Alors, ce n'est pas seulement dans l'univers Android, hein, c'est bien dans toute l'industrie du mobile. D'après les premiers benchmarks communiqués par Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite surpasse effectivement l'A18 Pro des iPhone 16 Pro dans certains domaines. Son CPU est apparemment plus puissant en multicœur et même de manière assez importante. Alors cette grande avancée, elle est permise par les tout nouveaux cœurs Orion, qui ont été développés à l'origine par Nuvia, une société qui a été fondée par des anciens de Apple. C'est vraiment la fin de la domination d'Apple sur les performances des puces mobiles, tu penses?
Alors, quand Qualcomm a présenté ses puces sur PC il y a quelques mois, et après que Pierre les ait testées, je lui ai posé la question de manière assez simple. Je lui ai dit, voilà, enfin, la même question que tu me poses. Alors, est-ce qu'Apple a perdu son avance? Et je lui ai demandé de me répondre. Tu me réponds par oui ou par non, s'il te plaît? Et il m'a dit, non, mais c'est compliqué.
Oui.
Les progrès sont nets, mais pour faire court, voilà, il m'avait sorti 3 problèmes. C'est que le SoC de Qualcomm était moins équilibré que celui d'Apple. Ils sont notamment assez forts sur le CPU, mais sur les autres aspects, Apple avait encore de la marge. Sur le ratio performance par watt, Apple était encore imbattable. Et enfin, il y avait la fameuse question de Windows, et c'est peut-être le principal souci pour le moment pour Qualcomm. Bon, alors, mais là, on parle de smartphone. Alors, avant de se prononcer, il faudra quand même voir les premiers smartphones sur le marché avec cette puce, parce que là, on est quand même dans des conditions, on était quand même dans des conditions assez extrêmes et assez favorables pour les tests. Mais a priori, oui, Apple a de la concurrence et j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Parce que là où Apple a peut-être le temps de venir voir sur les ordinateurs classiques à cause ou grâce à Windows, parce qu'il faut faire une transition vers une nouvelle architecture et on ne sait pas si cette transition finalement aura vraiment lieu un jour ou pas, avec Android, on n'a pas tous ces soucis, hein, c'est assez clair. Ceci dit, je pense qu'il y a quand même trois points à évoquer, voire même peut-être un peu plus. Voilà, donc les processeurs moins puissants sur Android, j'ai jamais eu l'impression que ce soit un vrai problème. J'ai jamais entendu quelqu'un dire oui, bah j'ai pris un iPhone Pro Max parce que tel smartphone de gamme sur Android se traîne. Donc est-ce que c'est vraiment un game changer de ce point de vue? J'ai vraiment un gros doute. Comme tu disais, pour le second point, c'est qu'on parle souvent de vagues de départ de chez Apple. Donc, il y a grosso modo, par exemple, toute l'équipe de design qui est partie depuis que Johnny Ive a. Bon, il n'a pas claqué la porte, mais il s'en est allé. Et là aussi, bah, on en voit les conséquences. On avait été alerté il y a quelques années lorsque cette société Nouya, on dit, hein,
Nuvia.
ou Nouvia. Voilà, Nouya.
Je sais pas comment on prononce exactement, mais ça s'écrit Nouvia.
Voilà, donc elle avait été fondée par des anciens d'Apple. On avait appris que ça avait engendré un nombre important de départs. Et voilà, et comment est-ce qu'Apple a su compenser justement ces pertes d'effectifs? Ben, on n'en sait rien. Et c'est certain que on imagine qu'Apple a dû voir rouge le jour où elle a appris que Nouvia avait été rachetée par Qualcomm. Et puis justement, par rapport à ça, longtemps l'architecture Apple Silicon, bah, ça se limitait à l'iPhone, à l'iPad et à l'Apple Watch. Est-ce que la division semi-conducteur d'Apple a grossi aussi vite que les différents projets d'Apple? Donc voilà, comme je disais, maintenant Apple fait des puces aussi bien pour l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch que le Mac. Et donc elle doit avoir une architecture qui peut s'adapter aussi bien de l'Apple Watch au Mac Pro. En plus, à cela, il faut rajouter qu'Apple ne cesse de fabriquer de nouvelles puces, que ce soit pour les AirPods, que ce soit pour le Vision Pro avec la puce R1. Bref, cette division en fait toujours plus, mais a-t-elle les moyens suffisants pour tenir les délais? Et c'est ça le principal, peut-être le potentiel principal problème. C'est qu'Apple était très agile avant avec l'architecture Apple Silicon. Est-ce qu'à force de vouloir tout maîtriser, est-ce qu'elle n'a pas perdu un peu d'agilité? C'est peut-être ça le souci.
On va terminer le tour de l'actu avec le Vision Pro. Oui, encore une fois, on en parlait déjà la semaine dernière. C'est vraiment pas la grande forme pour le casque. D'après une nouvelle investigation de The Information, Apple a fait réduire sa production et pourrait même l'arrêter complètement d'ici la fin de l'année. En fait, la demande ne suivant pas l'offre, Apple aurait accumulé suffisamment de stock pour les mois à venir. Et Apple se concentrerait maintenant sur un nouveau modèle moins cher, pour lequel elle semble avoir un peu plus d'espoir en matière de vente. Tim Cook l'a d'ailleurs reconnu dans une interview publiée cette semaine. Le Vision Pro n'est pas un produit de masse et il aimerait en vendre plus. Alors on a déjà pas mal parlé des débuts difficiles du Vision Pro la semaine dernière. Est-ce que tu veux enfoncer le clou?
Non mais ce qui est fou dans cette affaire, c'est qu'il faut se remettre, il faut remettre tout ça en perspective. Il y a un an, on nous annonçait que le processus de fabrication du Vision Pro allait être extrêmement compliqué, qu'il y allait avoir des pénuries tout au long de l'année, qu'on pensait que des mois après sa commercialisation, ce serait dur de mettre la main sur un exemplaire. Et là, on entend, non, non, mais là, les chaînes, bon, on a du stock pour les 6 prochains mois. On va les arrêter tranquillement, peut-être à la fin de l'année, comme ça, on peut passer à autre chose. C'est assez fou quand même, enfin, la façon dont les choses ont évolué. Moi, ce qui m'a inquiété dans le témoignage de Tim Cook, c'est l'usage qu'il fait du Vision Pro. Hein. Donc, on nous a expliqué que avec le Vision Pro, on allait faire des choses très compliquées, que ça allait permettre à des gens à faire tourner des centrales nucléaires ou à gérer des opérations, je ne sais quoi. Et à la fin, bah, il nous dit que le Vision Pro, bah, c'est super pour regarder Ted Lasso ou The Morning Show. D'ailleurs, je m'inquiète un petit peu parce qu'il l'a regardé combien de fois Ted
Oh
Lasso
ouais,
parce qu'il en parle en permanence.
à chaque fois il cite la même série, il tourne en boucle là sur la.
Parce que je suis pas spécialiste, mais Ted Lasso, il y a bien que 4 ou 5 saisons, hein, on n'en est pas non
Oui,
plus.
bah la nouvelle arrive l'année prochaine, mais voilà, la troisième
Ouais,
est finie
voilà.
depuis un moment, oui.
Mais au final, il vient de décrire malheureusement ce qu'est le Vision Pro. Le Vision Pro, c'est un téléviseur personnel. Alors, pour que le Vision Pro marche, il faut le vendre au prix d'un bon téléviseur. Et on trouve déjà de très bonnes télés à 1000 euros. Donc, voilà le
La
chantier
solution.
d'Apple, arriver à proposer une machine qui permette de consulter du contenu vidéo et de jouer le tout à un prix avoisinant les 1000 euros. Et pour les jeux, c'est pas moi forcément le gamer de la bande, faut de vrais jeux. Ça sert à rien de jouer à la roue de la fortune avec un Vision Pro, ça c'est pas très intéressant.
Bah, les rumeurs parlent justement d'un modèle moins cher, peut-être à 2 000 $. Alors, c'est pas 1 000, mais c'est 2 000 l'année prochaine, on verra si ça sera suffisant pour effectivement vraiment faire décoller le Vision Pro, le Vision Air, quel que soit son nom. Eh bien, écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end.
Bon week-end à tous, et puis on va bien se reposer parce que j'ai l'impression que la semaine prochaine, non seulement elle risque d'être courte, mais elle risque d'être très chargée.
Effectivement, ouais. On se retrouve la semaine prochaine pour une semaine pleine de nouveaux Mac. Salut à tous, bon week-end.